Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Et d'abord, merci, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, plus de 650 000 écoutes par mois, plus d'un million en comptant les vues sur YouTube. Code Source est aujourd'hui le 4e podcast de France hors radio et le 1er podcast d'actualité. Il était le grêlé, un mystère pour la police judiciaire depuis plus de 30 ans. Se sachant bientôt démasqué, François Vérove s'est suicidé le 27 septembre. Il est le dernier tueur en série en date à avoir été identifié en France. Nous avons déjà consacré un podcast en 2 épisodes à cette affaire, mais nous avons eu envie d'y revenir suite à plusieurs informations exclusives révélées par Le Parisien, notamment l'audition de sa femme. À ses yeux, François Vérove, le père de ses enfants, était un homme sans histoire, à l'humeur égale. Cet épisode de Code Source est raconté par 2 journalistes spécialistes police-justice du Parisien, Denis Courtine et Timothée Boutry. Timothée Boutry, vous avez pu avoir accès à plusieurs éléments de l'enquête et notamment l'audition de la femme de François Vérove. Nous l'appellerons dans ce podcast, comme dans votre papier, Valérie. Elle a 57 ans. Le 1er octobre, face à la juge, Valérie est toujours dans l'incompréhension la plus totale.
C'est ce qu'elle dit d'emblée, le ciel m'est tombé sur la tête. Voilà. Elle a été mariée pendant 36 ans à un homme qu'elle aimait, avec lequel elle a eu 2 enfants, et elle vient de découvrir 3 jours plus tôt qu'en fait, cet homme est suspecté d'être un des plus grands tueurs en série français, un violeur en série. C'est vraiment une sidération pour elle et une situation, on l'imagine, extrêmement douloureuse.
Denis Courtine, de votre côté, vous avez enquêté sur le terrain dans les différentes villes où François Vérove a vécu et vous allez apporter des éléments supplémentaires dans ce podcast, supplémentaires au témoignage de la femme de François Vérove. D'abord, rappelez-nous qui est le grêlé aux yeux des enquêteurs jusqu'à ce qu'on découvre son identité.
Alors le grêlé, c'est un tueur protéiforme. C'est un peu sa particularité, c'est qu'il est à la fois tueur, violeur, voleur. C'est quelqu'un qui s'attaque un peu à tout le monde et c'est ce qui fait sa particularité.
Il est notamment soupçonné du meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, le 5 mai 1986 à Paris dans le 19e arrondissement.
Oui, c'est une enfant qui un matin part à l'école, elle monte dans l'ascenseur, elle tombe sur cet homme qui la conduit dans un sous-sol et dans le sous-sol, il va la violer, il va l'attacher et il va la tuer.
C'est aussi le grêlé que la police soupçonnait dans l'affaire d'un double meurtre dans le Marais à Paris le 29 avril 1987.
Oui, c'est la mort de Gilles Politi, un père de famille, un mécanicien d'Air France, qui est retrouvé mort dans sa chambre, nu, et il y a dans une autre pièce le cadavre d'Irma Müller, c'est la jeune fille au père de la famille. Ce qui avait marqué les esprits, c'est la mise en scène du tueur qui avait placé les 2 corps dans des positions particulièrement monstrueuses. Gilles Politi avait été sur le ventre avec les pieds et les mains attachés dans le dos. Et Irma Müller, elle était superposée avec les bras comme si elle avait été crucifiée.
En résumé, le grêlé avait souvent le même mode opératoire.
Oui, alors il a eu 2 modes opératoires dans sa carrière de criminel. Dans les premières années, il frappait dans les ascenseurs. Il attendait sa victime dans l'ascenseur ou il essayait de la faire entrer dans l'ascenseur et il la conduisait dans un sous-sol. Et ensuite, il violait sa victime et il la tuait éventuellement comme pour Cécile Bloch. À partir de 87, il utilise de plus en plus la méthode du faux policier. C'est-à-dire qu'à l'époque, François Vérove est gendarme et donc il accoste ses victimes en tendant une carte de police. Il dit qu'il est policier et il prétexte un contrôle. Il se sert de ce moyen pour entrer en contact avec ses victimes et les piéger.
D'un mot, Timothée Boutry, c'est justement parce que la juge d'instruction pensait que le tueur était un ancien gendarme que François Vérove a été confondu.
Oui, en fait, il y a une instruction qui court depuis des années et par recoupement, la juge d'instruction a considéré que effectivement, c'était un ancien gendarme et qu'il devait vivre sur Paris. Et donc, elle a fait procéder à un recensement de tous les gendarmes qui habitaient dans la capitale à ce moment-là. Ça faisait une liste de 800 personnes qui devaient toutes faire l'objet d'un prélèvement pour comparaison génétique.
Timothée Boutry, face à la juge, Valérie, la femme de François Vérove, raconte la vie qu'elle a menée avec lui depuis 2019. Il vivait à la Grande Motte, dans l'Hérault. Qu'est-ce qu'elle raconte du quotidien avec cet homme ?
Un quotidien tout à fait banal, lambda, un mari attentionné, un bon père de famille qui s'occupait de ses enfants, qui les accompagnait à leurs activités le week-end. Vraiment une vie de famille classique.
Et il était d'un naturel calme.
Très calme, très pudique aussi, elle dit, et assez discret sur son travail. Mais hormis ce trait de caractère-là, vraiment rien d'exceptionnel. Plutôt un homme qui aimait bien faire la cuisine, elle le souligne à plusieurs reprises.
Elle ne l'a jamais vu violent ?
Non, elle décrit un homme ni violent, ni éruptif, d'humeur égale.
Timothée Boutry, Valérie, raconte à la juge ce qu'elle sait de l'enfance de François Vérove.
Son enfance a été un peu difficile. Elle parle d'un père autoritaire. Et surtout, son enfance va être marquée par le décès prématuré de sa mère alors qu'il n'a que 10 ans, elle décède de la grippe. Et là, son père, qui travaille dans la marine marchande, le met chez sa grand-mère maternelle. Donc il va être élevé une partie de son enfance et adolescence par sa grand-mère. Puis son père se remarie avec une femme qui a déjà 2 enfants, 2 filles. Donc lui, il revient vivre auprès de son père et de sa belle-mère. Et là, ça se passe pas bien. Les rapports sont compliqués. Il a l'impression qu'il trouve pas sa place. Ses demi-sœurs ont pris sa chambre, donc on l'envoie dans un autre endroit. Il a des rapports assez compliqués avec sa belle-mère. Son père l'oblige à l'appeler maman, sa belle-mère. Évidemment, c'est difficile pour lui. Donc, ça va mal se passer dans ce nouveau contexte familial.
Denis Courtine, vous êtes rendu à Marcq-en-Barœul, dans le département du Nord, là où a vécu François Vérove quand il était ado dans les années 70. Déjà, ça ressemble à quoi ?
Alors, il habitait un lotissement à Marcq-en-Barœul, qui est une commune plutôt huppée du nord de la France. Si ça se passait pas super bien dans son foyer, en revanche, dans le quartier, ça se passait bien. Et il faisait notamment de la moto là-bas. Il avait des copains, il avait une vie sociale.
Vous avez croisé des gens qui l'ont connu à l'époque, à ce moment-là ?
Oui, j'ai croisé des gens qui l'ont connu à cette époque et qui gardent tous un bon souvenir de lui. C'était un type normal, qui faisait pas de bruit, qui était d'une banalité confondante.
En 1983, quand il a 21 ans, François Vérove se fait recruter dans la gendarmerie.
François Vérove, il n'avait pas une scolarité brillante, c'était un élève moyen, voire médiocre. Il s'est arrêté au BEPC, il n'a pas été jusqu'au bac. Et donc quand il passe son service militaire, il voit une opportunité, il passe son concours de gendarme, il le réussit. Et il a l'opportunité de pouvoir suivre un stage, ou du moins une formation de cavalier. Et lui, il intègre assez vite la garde républicaine à Paris.
Mais au bout de 6 mois, il change d'affectation. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
La cavalerie, c'est pas n'importe quel service de la garde républicaine, c'est la noblesse de la cavalerie. Et donc, ça se passe pas très bien pour lui, il a pas des bonnes notes. Et au bout de 6 mois, ce qui est très rare, on le change de service à la garde républicaine. Il passe de la cavalerie au 2e régiment d'infanterie. Donc, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a un des anciens gardes républicains qui évoque une histoire de mœurs. On ne sait pas ce que c'est, ça n'a absolument pas pu être vérifié. Ce qui est certain en tout cas, c'est que les notes de François Vérove à la garde républicaine sont finalement de plus en plus mauvaises et il finit par quitter de lui-même la garde républicaine.
Timothée Boutry, c'est à cette période qu'il rencontre Valérie.
Oui, il est déjà gendarme quand il rencontre son épouse. En fait, elle est originaire du Nord, elle aussi. Et alors qu'il est hébergé dans la caserne des Célestins à Paris, il fait des allers-retours dans le Nord pour revoir son père. Et c'est à cette occasion-là qu'il rencontre son épouse, qui est quasiment sa voisine, en fait.
Ensuite, le couple va déménager plusieurs fois en fonction des affectations de François Vérove.
À partir du moment où il quitte la gendarmerie, donc en 1988, il intègre la police. Et là, ça va être un peu au gré de ses affectations qu'il va déménager. Donc il va notamment habiter, ça on en est sûr, à Châtenay-Malabry, un logement social qui avait été proposé par la police nationale. Et ensuite, il s'installe à Longperrier, c'est un petit village de Seine-et-Marne. Alors c'est intéressant ces affectations parce que ça permet de relier évidemment avec d'éventuels crimes qui auraient été commis, du moins à proximité.
Cette maison de Longperrier où il a vécu avec son épouse de 93 à 2000, vous vous y êtes rendu ?
C'est exactement comme à Marcq-en-Barœul en fait. C'est un lotissement où les gens se connaissent. D'ailleurs là-bas sur place, il s'est fait des amis qu'il a gardés des années après. Il était épanoui là-bas, il était heureux en apparence. Du moins il avait une vie familiale, il avait sa femme et ses 2 enfants. Une vie très banal.
Et à ce moment-là, il travaille où ?
On sait qu'il a travaillé parmi les motards. Il a travaillé dans différents commissariats d'Île-de-France.
Timothée Boutry, Valérie raconte à la juge que François Vérove était brouillé avec son père.
Oui, cette brouille remonte au milieu des années 90 et au départ, c'est une question d'immobilier d'argent, si je puis dire. C'est que son père souhaite vendre la maison familiale, celle dans laquelle il a grandi avec sa mère. Et donc là, il y a vraiment un conflit qui se cristallise à partir de ce moment-là sur cette question financière de vente de la maison.
On est en 96-97 et il fait une grosse dépression à ce moment-là.
Oui, son épouse dit qu'il fait même un burn-out, c'est le terme qu'elle emploie. En fait, elle revient un jour à la maison, elle voit qu'elle est pompier ça va vraiment être une chute sévère puisqu'il va être hospitalisé un mois, puis il va être suivi pendant un an sur le plan psychologique et psychiatrique. Donc c'est un vrai craquage à ce moment-là, quelque chose de tout à fait notable.
On le disait, il ne s'emportait jamais, il n'était jamais violent. Du coup, elle n'a jamais remarqué la moindre chose d'anormale, on va dire, dans son comportement ?
Rien dans son comportement n'avait pu l'intriguer. On l'interroge sur des éléments précis, des marques qu'elle aurait pu constater, des changements de tenue bizarres. Et non, vraiment rien du tout. Elle a aucun élément qui aurait pu aiguiser sa curiosité ou alors susciter sa crainte.
Denis Courtine, l'un de ses amis que vous avez rencontré dans le Nord, vous a parlé d'un détail qu'il avait surpris au sujet de François Vérove.
Oui, c'est son goût pour les films gore. Il en était très friand. Il avait un film en particulier, c'était un peu son film culte, c'était Cannibal Holocaust. C'était un film des années 80, du début des années 80, particulièrement gore. C'est un film qui avait fait polémique, hein. Il avait été interdit dans des dizaines de pays, il y avait eu un procès. Enfin, c'était des scènes assez effroyables qu'il y avait dans le film. Et forcément, ça étonnait quelque peu qu'un homme comme François Vérove, qu'un ancien gendarme, un ancien policier aussi austère dans sa vie, puisse être le fan de ce genre de film.
Pourquoi vous avez retenu ce détail dans l'un de vos papiers sur lui ?
Dans plusieurs scènes de crime attribué au grêlé, il y a justement une mise en scène. Dans le double homicide du Marais, on se pose des questions. On dit qu'il faut faire preuve d'une grande imagination ou il faut avoir copié ça quelque part pour mettre en scène à ce point son crime, avec la victime qui est quasiment crucifiée. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on est un fan de films d'horreur qu'on est tueur en série, mais ça peut être aussi, selon les psys, une façon d'entretenir, de nourrir en fait un fantasme en étant un amateur de ce genre d'œuvre.
Timothée Boutry, est-ce qu'on sait de façon certaine combien de crimes François Vérove, alias Le Grélé, a commis ?
De façon certaine, il y a 5 crimes qui lui sont attribués, puisque sur 5 scènes de crime, on a retrouvé son ADN. Il s'agit de meurtre et de viol. Il y a une 6e victime dont l'agression, un viol, lui a été imputé. Donc l'instruction vise précisément 3 meurtres et 5 viols.
Denis Courtine, vous avez cherché à savoir si François Vérove avait pu commettre d'autres crimes et vous avez pu accéder à l'enquête du groupe de la police judiciaire en charge des cold cases, les affaires non élucidées. Qu'est-ce que vous avez appris ?
J'ai appris que les enquêteurs du groupe cold case de la criminelle s'étaient intéressés à près d'une trentaine d'affaires. Une trentaine d'affaires avec l'ombre du grêlé juste au-dessus.
Et vous avez un exemple des faits qui remontent au 1er avril 1987 à Paris.
Le 1er avril, donc, il y a un faux policier qui se présente dans un immeuble, dans le 6e arrondissement. Il y a une boum. Il dit, voilà, moi je suis policier, j'ai appris qu'il y avait une boum, vous faites trop de bruit, les voisins se plaignent, du coup je vais rester à la fête pour vous surveiller. C'est une scène qui dure très longtemps, qui dure plusieurs heures. Il reste là, il fait même la vaisselle, il passe des disques. Il joue au disque jockey pendant une période et à la fin de la boum, il se retrouve avec 2 personnes, 2 adolescents et il commet des violences sexuelles sur une adolescente et sur l'autre victime. Il essaye de commettre des violences sexuelles mais le gamin arrive à se défendre et l'auteur prend la fuite.
Timothée Boutry, la femme de François Vérove, a raconté pendant son audition face à la juge la réaction de ce mari quand il a été appelé par les enquêteurs et qu'il a compris qu'il allait devoir faire un test ADN et donc être démasqué. Comment est-ce qu'il a réagi après cet appel ?
En fait, c'est son épouse qui reçoit l'appel de la PJ de Montpellier parce qu'elle utilise l'ancien numéro de son mari. Et elle dit, après, voilà, il est revenu, je lui dis, au fait, il faut que tu appelles la PJ, c'est pour une vieille affaire. Et elle explique qu'il rappelle devant elle et qu'elle comprend qu'il prend un rendez-vous et il lui demande mercredi prochain, 17h, sous-entendu, on n'a rien, elle fait non. Et donc, il raccroche. Et elle dit, il note même dans son agenda électronique, le mercredi suivant, 17h, rendez-vous au PJ.
Pas de signe particulier ?
Non, aucun signe. Même la juge repose la question en disant, mais vraiment il se passe rien. Ah bah non, on a même été faire une balade sur la plage après, aucune réaction. Alors que là, forcément, François Verhoef sait qu'il va être démasqué.
Deux jours avant le rendez-vous du mercredi 29 septembre, rendez-vous pendant lequel son ADN aurait été prélevé, François Verhoef a trouvé un prétexte pour quitter la maison. Il a dit qu'il allait accueillir des clients Airbnb d'un autre appartement qu'il détenait et il est parti à vélo.
Oui, il part sur son vélo électrique, sa femme précise en Bermuda beige avec une chemise imprimée et un gilet bleu marine. Rien d'exceptionnel pour elle parce qu'ils ont ce logement qu'ils mettent en location, il y a quelqu'un qui arrive, voilà. Et c'est qu'après coup qu'elle comprendra que la location devait débuter théoriquement le lendemain et que, en fait, il n'y avait absolument aucun rendez-vous qui était prévu ce soir-là.
Et ce soir-là, François Verhoef ne rentre pas, l'alerte sera donnée et on découvrira que François Verhoef s'est tué la nuit ou le jour suivant, le 27, en avalant des médicaments. Il a laissé derrière lui un mot pour les secouristes, demandant à ne pas être réanimé en cas de coma. Timothée Boutry, il a surtout laissé une lettre d'un peu moins de 2 pages à sa femme pour expliquer son geste.
Oui, c'est une lettre d'aveu, d'excuses aussi vis-à-vis de sa femme et de sa famille. Et il explique qu'effectivement, il a commis des gestes impardonnables, il le dit. Il a dit qu'il était mu par des pulsions grandissantes et qu'il avait besoin de tuer pour effacer la rage qu'il avait en lui. Donc c'est une lettre extrêmement crue. Et en même temps, voilà, il dit qu'il ne voulait pas imposer tout ce qui va suivre à sa famille. Et donc, il a préféré se supprimer, que l'enquête va évidemment se terminer puisqu'il est mort et qu'il ne veut pas faire subir à sa famille une enquête, un procès et l'opprobre qui va s'abattre sur lui et sur son nom.
Il précise que la psychothérapie qu'il avait suivie après sa dépression dans les années 96-97 l'a soigné.
Oui, il dit « Ce n'est qu'en 97 que j'ai pu être libéré de ces profondes obsessions. » Et il ajoute « Suite à ma dépression, j'ai été pris en charge et j'ai pu bénéficier de ma psychothérapie. » Voilà. Cela a cassé cet instinct de mort, parce qu'il dit « Car en tuant des innocents, c'était mes propres souffrances d'enfant que je voulais détruire inconsciemment. » Et il ajoute « Cette guérison, cela a été une véritable délivrance, une véritable renaissance. »
Timothée Boutry, dans cette lettre, il n'y a pas d'informations précises, utiles pour les familles de victimes qui espèrent forcément connaître un jour la vérité. Il n'y a pas un mot pour eux.
Ce n'est pas du tout une lettre circonstanciée. Il n'y a absolument pas, voilà, c'est vrai, j'ai commis tel meurtre, la petite bloque, j'ai tué Ingmar Müller et Monsieur Politi. Pas du tout. Il n'y a aucune date précise, il n'y a aucun autre fait qu'on pourrait potentiellement lui rattacher. En revanche, si, il parle de ses victimes, puisqu'il dit « Je ne pourrais pas effacer le mal que j'ai fait à ma famille, ainsi qu'aux familles des victimes. Je ne sollicite aucun pardon, parce que tout ça est impardonnable. »
Les derniers mots de sa lettre sont saisissants.
Oui, parce que c'est à la fois celle d'un mari et père qui s'adresse à ses proches. Il dit « Je vous aime plus que tout au monde. » Et il termine sa lettre en disant « Je déteste ce criminel que j'ai été. »
Dans le bureau de la juge, sa femme, Valérie, raconte que même ses enfants, leurs 2 enfants, n'avaient absolument rien soupçonné.
Vraiment, personne n'avait rien perçu. Les enfants, c'est assez vertigineux pour eux. Et d'ailleurs, la femme de François Verhoef dit, en fait, les enfants m'ont dit, papa, il avait 2 visages. Voilà, c'est vraiment un homme à double facette. C'est ça qui rend cette histoire encore plus effrayante et questionnante.
C'était l'une des plus vieilles enquêtes non résolues en France, un cold case vieux de 35 ans, le grêlé, surnom donné à cet homme à cause de sa peau acnéique, a été identifié. Il s'appelait François Verhoef, il était ancien gendarme, il était jusqu'à un passé récent, bon père de famille et bon grand-père. Il s'est donc suicidé.
Merci à Timothée Boutry et Denis Courtine. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, @CodeSource, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.